Frères et sœurs, quelle expérience avons-nous de la prière? À cette question un peu intime, nous ne sommes pas certains de pouvoir répondre spontanément, et voilà pourtant que nous venons d'être invités à toujours prier sans nous décourager. Aussitôt, bien sûr, surgissent les objections habituelles, le manque de temps, le refus de la routine, le silence de Dieu qui tarde à nous répondre, l'agitation ambiante peu propice au recueillement, que sais-je encore. Mais Jésus ne manque pas une occasion d'encourager ses disciples à la prière, et il le fait aussi bien par la parole que par l'exemple. Aujourd'hui, c'est à travers une parabole, un peu étrange il est vrai, qu'il choisit de manifester l'importance et la nécessité de la prière assidue. Prenons ainsi le temps ce matin de nous poser et de nous reposer à ses côtés pour laisser sa parole nous atteindre et pénétrer non pas seulement notre esprit et notre intelligence, mais aussi notre cœur et notre volonté. Comme toujours, le Seigneur a préparé le terrain de longue date, de très longue date. Et c'est pourquoi nous avons d'abord rencontré, dans la première lecture, le peuple d'Israël, à l'époque où il traversait le désert, en espérant atteindre la terre promise. Durant cette période, il lui fallut parfois endurer la faim, avant d'être rassasié par le don de la manne. Il connut aussi la soif avant de recevoir l'eau jaillissant du rocher. Il éprouva encore la fatigue avant de comprendre que l'impossible ne lui était pas demandé. Il fut tenté par le découragement avant de découvrir que chaque matin inaugurait un chemin nouveau qui l'éloignait de l'esclavage et le rapprochait de la vraie liberté. Au cours de cette traversée du désert, le peuple apprit donc à discerner la présence concrète de Dieu à ses côtés. À présent, il s'agit pour lui de combattre les Amalécites, ennemis redoutables et redoutés. Les rôles sont alors répartis de la manière suivante. Moïse gravit la montagne pour y prier, tandis que Josué organise la bataille sur la plaine. Le signe de la prière est donné par le bâton levé vers le ciel, ce bâton que Moïse a déjà utilisé pour accomplir des miracles en Égypte, pour ouvrir les eaux de la mer Rouge, pour faire jaillir l'eau du rocher, bâton qui manifeste l'union des hommes avec Dieu. Le récit biblique souligne ainsi l'effet de la prière. Moïse prie et son peuple remporte la victoire qui n'était pas attendue. Voilà peut-être le premier exemple de la prière des frères, une prière de confiance et d'intercession, une prière qui ne comporte même pas de mots, mais qui se traduit par un geste, les mains levées vers le ciel. C'est un signe assez proche que Jésus suggère dans sa parabole, les mains jointes d'une femme veuve qui réclame justice. Avec insistance et fidélité, elle vient et elle revient auprès d'un juge unique et insensible. Elle ne se décourage pas, mais elle persévère avec simplicité. Jésus souligne que cette femme a conscience de sa pauvreté et de sa dépendance. Elle a besoin d'un autre pour obtenir satisfaction. S'il nous la donne ainsi en exemple, c'est que la prière suppose une disposition comparable. Lorsque nous avons la prétention de nous suffire à nous-mêmes, de nous dispenser des autres et même parfois de Dieu, de mener notre propre barque sous prétexte que nous saurions ce qui est bon pour nous, alors, nous sommes incapables d'entrer dans la prière et de l'envisager réellement. C'est dans la pauvreté que que nous pouvons demander à Dieu qu'il nous comble de sa richesse. Car la parabole parle bien d'une prière personnelle. Cette femme demande quelque chose de précis. Dans la vie spirituelle, nous avons certes besoin de gestes, de signes et de symboles, mais nous avons surtout besoin d'une parole libre, une parole adressée au Seigneur sans détour ni convenance superficielle, la parole qu'un enfant peut confier à son Père des cieux en toute sécurité. C'est la parole murmurée dans le secret de la chambre ou la parole hurlée à l'heure de l'épreuve, la parole rapidement prononcée ou la parole mûrie jour après jour. C'est la parole qui ouvre le dialogue et c'est aussi la parole suspendue pour laisser place à une autre parole, celle de Dieu lui-même. Saint Paul nous rappelle ce matin que toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Par conséquent, nous ne lisons pas d'abord les textes bibliques pour nous informer ou pour mieux connaître les aventures de Moïse, de Job, d'Ézéchiel ou de Pierre. Nous les lisons et nous les méditons pour entendre Dieu qui nous parle, Dieu qui ne cesse de se révéler à chacun de nous, Dieu qui engage la conversation avec ses enfants. Nous comprenons ainsi que toute prière chrétienne s'enracine dans la parole qui vient de Dieu. Cette parole que nous recevons chaque dimanche et même chaque jour, cette parole que nous pouvons aussi découvrir par nous-mêmes en ouvrant simplement notre Bible. Comme le disait le vieil homme sortant de la petite église de son village d'Ars et interrogé par son saint curé qui s'étonnait de le voir passer autant de temps devant le tabernacle, « J'avise Dieu et il m'avise ». De la prière, nous ne pouvons sans doute rien dire de mieux. À la différence du juge décrit par Jésus, Dieu agit avec tendresse et délicatesse, avec douceur et miséricorde. Auprès de lui, nous trouvons toujours le réconfort et la paix intérieure. Dans la très belle homélie qu'il a prononcée mardi dernier, à l'occasion du 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, notre pape François nous a posé une question. Demandons-nous si, dans l'Église, nous partons de Dieu, de son regard d'amour sur nous. Frères et sœurs, tel est le cœur de notre foi, tel est le cœur de la prière, et tel est le cœur de la joie véritable qui nous est donnée. Amen.